Grand Reportage, le magazine de la rédaction. Catherine Pétillon.
Je suis favorable à la torture, mais au courant, et le peuple y est aussi favorable. Les minorités doivent s'incliner, ou elles s'adaptent, ou simplement elles disparaissent. Jamais je ne te violerai, tu es trop laide, dégage espèce de cloche.
L'état démocratique de droit au Brésil est en suspension, si je puis dire. C'est un peu difficile de le dire en tant que Brésilien, en tant que quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître. Mais c'est un peu ça. Il y a une profonde crise institutionnelle au Brésil. Ou carrément la chute de la démocratie totalement.
C'est un candidat ouvertement raciste, homophobe, misogyne, admirateur de la dictature militaire et de ses tortionnaires qui se retrouve aujourd'hui en bonne place pour remporter l'élection présidentielle au Brésil. En tout cas, Jair Bolsonaro, arrivé en tête du premier tour, recueille encore la majorité des intentions de vote pour le scrutin de dimanche. Face à lui, le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, remplaçant au pied levé de l'ancien président Lula, aujourd'hui emprisonné et empêché de concourir. C'est l'un d'entre eux que 147 millions d'électeurs vont devoir choisir leur futur chef d'État. Si Bolsonaro était élu, c'est le plus grand pays d'Amérique latine et la cinquième population mondiale qui basculerait à l'extrême droite au terme d'une campagne fondée de part et d'autre sur la rhétorique de l'ennemi, le tout sur fond de marasme économique, de corruption endémique et de violence quotidienne. Quelle que soit l'issue du scrutin, le Brésil est là face à une crise majeure. Quelles en sont les racines historiques? De quoi la polarisation extrême à laquelle on assiste aujourd'hui est-elle le signe? Brésil, l'ordre au service des inégalités, c'est un reportage signé Olivier Poujade. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction de France Culture, nous recevons aujourd'hui l'historienne Armel Enders. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et chercheuse à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Vous êtes l'auteur notamment d'une histoire du Brésil aux éditions Chandaigne. À vos côtés, Alfredo Valadeo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École des Affaires Internationales de Sciences Po. Alors avant d'écouter le reportage d'Olivier Poujade, je vous propose de retrouver au Brésil Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial de Radio France. Nathanaël, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en direct de Rio. Quelle est l'ambiance au Brésil à maintenant 48 heures du second tour?
Écoutez, l'ambiance est tendue et le sondage du jour n'aide pas à y voir plus clair. Bolsonaro est donné à 56 et Haddad à 44%. Sur le papier, le candidat d'extrême droite conserve une large avance. Mais il est sorti de son silence quand même pour expliquer dans une vidéo sur Internet que seule la fraude pourrait l'empêcher de gagner. Finalement, il n'est peut-être pas si serein que cela.
Et des partisans dans chaque camp, comment vit-on ces dernières heures de campagne chez les soutiens du candidat de gauche Fernando Haddad?
Alors, en termes d'affichage, Haddad mène une campagne jusqu'au bout. Il était mardi à Rio, hier soir à Sao Paulo. Bref, il ne lâche rien. Il continue de s'attaquer à son adversaire, qu'il qualifie de candidat fantôme. Il faut dire que Bolsonaro, depuis qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, mène une campagne, on va dire, à distance. Fernando Haddad a reçu le soutien de nombreux artistes qui participent à ses meetings, Chico Buarque ou encore le rappeur Mano Brown. Il est très populaire ici au Brésil. Mais je vais vous dire une chose, si Haddad continue de dire qu'il peut gagner chez ses partisans, il y a quand même une sorte de fatalité qui s'est installée, la paralysie de la peur, on manifeste, on se fait entendre, mais on se prépare déjà à lutter contre la dictature annoncée par le candidat d'extrême droite. C'est un peu comme si la bataille était déjà perdue. Il faut dire que les sondages ne disent pas le contraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'écart, même si l'écart entre les deux hommes se resserre.
Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a davantage d'optimisme chez les partisans de Bolsonaro?
Ah ben on y croit. Et cela se sent dans les rassemblements généraux à Rio. Ils ont lieu sur la plage de Copacabana. Les partisans du candidat d'extrême droite viennent en nombre. Ils sont tous en jaune et vert, les couleurs du Brésil. Certains se font imprimer le visage de leur candidat sur leur t-shirt. Bref, on y croit et surtout on se réjouit d'imaginer virer du pouvoir le PT, le Parti des Travailleurs de l'ancien président Lula. Je dis vraiment virer parce que c'est comme cela que c'est vécu. Quand on demande pourquoi ils vont voter Bolsonaro, ces électeurs répondent à chaque fois, on en en a assez du PT, on en a assez de Lula et de sa clique. Le rejet est profond, il est très fort, il y a une envie d'alternance qui semble tout renverser. Et quand vous vous dites au Brésil risque de tomber dans une nouvelle dictature, on vous répond mais non, c'est pas possible parce que Jair Bolsonaro va être élu démocratiquement.
Alors comment en est-on arrivé là? On écoute tout de suite le reportage au Brésil d'Olivier Poujade.
Je suis favorable à la torture, je suis au courant, et le peuple y est aussi favorable. Je provoquerai un coup d'État dès le premier jour. Les minorités doivent s'incliner, ou elles s'adaptent, ou simplement elles disparaissent. Les afro-descendants ne font rien, même pour leurs propriétaires, ils servent à rien.
Jair Bolsonaro, ce serait donc lui l'homme à poigne dont le Brésil a semble-t-il besoin. L'homme du renouveau politique, malgré 27 années de mandat en tant que député. Ses messages de campagne ont radicalement changé depuis ce franc succès obtenu au premier tour. L'ancien capitaine d'artillerie, renvoyé de l'armée pour insubordination, dit désormais vouloir rassembler, donner un nouveau souffle à son pays. Mais c'est un tout autre discours qui lui a permis de réunir 46% des suffrages le 7 octobre dernier. Un discours souvent discriminant, réclamant l'urgence d'un retour à l'autorité. Ces électeurs adhèrent-ils vraiment à ces propos? L'anthropologue Milton Guran estime que la haine du partisan de Bolsonaro est avant tout dirigée vers le PT, le Parti des Travailleurs.
L'électeur de Bolsonaro, si vous demandez pourquoi de qui il va voter pour Bolsonaro...
L'électeur de Bolsonaro, si vous lui demandez pourquoi il va voter pour Bolsonaro, il va vous dire que c'est parce qu'il est sympathique, parce qu'il a du cran, qu'il va en finir avec la corruption. Soyons sérieux, il ne sait pas vraiment qui il est. Il ne vote pas pour son programme. Il vote pour Bolsonaro parce qu'il ne veut plus du PT. Et ce sentiment est très enraciné parce que Lula a trahi le peuple brésilien. Le PT a lui-même trahi ses militants. J'ai participé à fonder ce parti et ce n'était pas pour arriver à ça. C'est une immense désillusion et il y a une rage d'une grande partie de la société qui n'aime pas trop voir des noirs prendre l'avion, des pauvres avoir la possibilité de voyager, de s'acheter une maison, de voir des noirs dans les universités. Il y a une partie du pays qui réagit de façon très négative à ça.
La crise a succédé aux avancées sociales mises en place par Lula et Dilma Rousseff. Crise économique, scandale de corruption, une partie du Brésil se replie et se replonge dans son passé pour remettre de l'ordre.
Le premier événement, ça a été l'arrivée de la famille royale portugaise au Brésil. Rio de Janeiro a été la seule ville d'Amérique latine à devenir la capitale d'un empire européen. Le roi est arrivé avec toute sa cour, une élite colonialiste venue appliquer sa politique d'exploitation. Quand le roi est reparti, eux sont restés. Ces soi-disant Brésiliens ont gardé le même discours et la même vision que les colons de la métropole. Et c'est cette élite qui est encore au pouvoir aujourd'hui.
L'élite qui décide pour le peuple.
Elle descend directement de cette administration coloniale. Quand est arrivée la fin de l'esclavage, parce que ce n'était vraiment plus possible de continuer sur ce modèle.
Le Brésil a été le dernier à l'abolir ?
Oui, le dernier pays des Amériques lié à cette diaspora africaine à abolir l'esclavage. Et à ce moment-là, le projet qui s'est imposé était celui de refuser à ces populations de travailleurs la citoyenneté.
Officiellement, c'est écrit comme ça ?
C'est écrit dans la loi. Il y a deux articles. L'esclavage est aboli. Point final.
Rien de plus.
Rien de plus. Donc, en gros, ils ont jeté cette masse de travailleurs en les laissant mourir.
Et c'est donc de là que naît le lien entre inégalité sociale et raciale.
C'est évident que si l'État abandonne ces personnes, il ancre ces inégalités. Bon, ensuite, il y a eu quelques tentatives où la nation brésilienne a pensé à la possibilité d'inclure tous ses citoyens. Le premier essai a eu lieu à partir de la révolution des années 30, durant la période de Túlio Vargas. Son projet d'inclusion sociale a été contré par ses élites fascistes brésiliennes qui ne sont pas arrivées à s'emparer du pouvoir, mais qui, 10 ans plus tard, ont organisé le coup d'État de
1964.
La deuxième tentative de construire une vraie nation, en associant toute la société, a été celle du gouvernement Lula. Et il a vraiment concrétisé certains projets. Sortir des gens de la pauvreté, imposer des quotas dans les universités, permettre aux plus modestes de prospérer dans un système capitaliste. Et ça, c'est inacceptable pour les élites.
Ces élites n'ont pas digéré notamment le salaire minimum multiplié par 2 par Dilma Rousseff lors de son premier mandat. Elles ont refusé que des droits basiques soient accordés aux employés de maison. Le terme de domestique est encore très courant au Brésil. Très souvent, ce sont des femmes, 7 millions d'employés de maison qui représentent plus de 10% de la population active. Aujourd'hui, comme tous les matins, Claudia s'est levée à 5 heures. Elle accepte volontiers les 3 heures de trajet pour venir faire le ménage, car elle a, dit-elle, enfin trouvé un travail où elle se sent bien, où elle se sent respectée, où elle ne subit plus de regards méprisants.
Beaucoup de maisons vivent encore à l'époque de la dictature, de l'esclavagisme. Les employés n'ont même pas le droit à un café ou un verre d'eau. On doit tout ramener de chez nous. Une fois, je me souviens même d'un vendeur qui venait livrer chez Madame ses légumes. Et cette patronne demandait à mon ami qui travaillait chez elle de nettoyer derrière lui, partout où il était passé. Je me suis dit, mais c'est fou. J'ai dit à mon ami, et tu continues à travailler dans une maison comme ça? Elle doit faire la même chose avec toi parce que tu es de la même couleur que ce vendeur.
Et vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation?
Ah, je ne vous dirai pas le nom de cette personne chez qui j'ai passé des entretiens. J'y suis allée 3 fois. C'était une chanteuse. Elle cherchait une cuisinière. L'employé que j'allais remplacer me reçoit et me dit « elle ne va pas tarder ». J'avais rendez-vous le matin. Elle est arrivée en milieu d'après-midi pour finalement dire qu'elle était trop fatiguée pour me voir. La dernière fois que j'y suis allée, la domestique avait pris le temps de m'expliquer ce qu'il fallait faire. Tous les jours, cuisiner les haricots, avec surtout la consigne de ne pas y toucher, de les jeter s'il en restait. On n'avait même pas le droit de mettre notre déjeuner au frais. Vous savez ce que c'est que de se sentir toute petite. Du coup, je leur ai dit qu'ils pouvaient trouver quelqu'un d'autre. Je leur ai dit, en face, il n'y a pas que l'argent qui compte. On doit toujours placer sa dignité en premier. J'ai quand même travaillé avec ce genre de personnes pendant 26 ans. Parfois, le racisme existe même entre noirs.
Comment ça?
Parce que s'ils ont une meilleure situation, ils veulent vous écraser aussi. Ils veulent reproduire ce qu'ils ont subi. C'est tout aussi honteux de ne pas respecter sa propre couleur. Ils doivent presque se comporter de cette manière pour obtenir une meilleure place. Et ça arrive très souvent.
Cette banalisation du racisme, Claudia veut qu'elle soit dénoncée. C'était le combat que menait la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco.
L'assassinat de Marielle Franco commoveu et mobilisou os brasileiros.
Le 14 mars dernier, elle est assassinée de 4 balles en pleine tête, quelques heures après sa dernière prise de parole à l'Assemblée de la ville de Rio.
Je crois que nous avons ici un monsieur qui défend la dictature et qui manifeste sa position en m'interrompant. Je vous demande, monsieur le Président, d'intervenir. Je ne permettrai pas qu'un citoyen vienne ici sans être capable d'entendre l'opinion d'une femme qui a été élue.
Une femme noire, lesbienne, élevée dans une favela de Rio, son assassinat est un message clair envoyé par cette partie de la société brésilienne, raciste, homophobe et misogyne. L'enquête sur sa mort a récemment démontré qu'il ne s'agissait ni d'un règlement de compte amoureux, ni d'une agression qui aurait mal tourné. Les assassins de Marielle Franco sont des professionnels, trois hommes politiques et deux anciens militaires sont suspectés.
L'état démocratique de droit au Brésil est en suspension, si je puis dire.
Carlos Milani est analyste à l'Institut d'études sociales et politiques de l'État de Rio.
Je vais te dire deux mots sur deux moments historiques qui semble pas résolu dans le processus de construction d'une société brésilienne. Je pense que c'est l'abolition de l'esclavage, hein, c'est une question non résolue, hein, et sur le rôle des Noirs et des pauvres dans la société brésilienne. Je pense qu'il y a une partie de nos élites, de nos oligarchies, qui acceptent facilement les taux insupportable d'inégalité que nous avons dans ce pays, une sorte d'accommodation à cette inégalité. Elle est même fonctionnelle pour la reproduction de ce système. Le deuxième, c'est la redémocratisation. Donc nous avons pendant très longtemps, en sciences politiques, en sociologie politique au Brésil, applaudi le modèle de la transition démocratique au Brésil. Donc une transition pacifique, et en plus on n'a pas connu, comme l'Argentine, au Chili et en Uruguay, une justice de transition. Il est impensable à ces jours, en Argentine, qui est dans une crise profonde, dans une crise économique profonde, il est impensable que quelqu'un puisse publiquement défendre la dictature militaire. Il est impensable en Argentine aujourd'hui que quelqu'un puisse défendre publiquement et que cette personne soit applaudie si elle défend la torture et des militaires qui ont torturé. Or, le candidat Bolsonaro, il applaudit la torture et quand il avait donné son vote pour l'impeachment de Dilma Rousseff, Bolsonaro, il a fait l'éloge du général Ustra qui était le tortureur de Dilma Rousseff. Donc l'actuel candidat avec le plus grand nombre de voix potentielles pour devenir président de la République au Brésil, est quelqu'un qui fait l'éloge de la torture, qui réduit l'importance de tout ce qui s'est passé pendant la dictature militaire au Brésil. Donc je pense que maintenant nous payons beaucoup les frais de cette transition avec le jeitinho brasileiro, hein, cette manière brésilienne de ne pas se confronter aux vrais conflits. Donc l'abolition de l'esclavage n'a jamais été résolue, le droit des Noirs au Brésil n'a jamais été conquis vraiment. Et je pense que le travail sur la mémoire, le travail sur la justice de transition n'a pas été fait au Brésil.
Un racisme méticuleusement orchestré, une démocratie raciale restée à l'état de concept et une transition démocratique maîtrisée par les militaires.
Tatiana Roque, Je suis professeure à l'Université de Rio. Et j'ai été aussi candidate à députée fédérale à Rio.
Pour quel parti c'était ?
PSOL, Parti Socialisme et Liberté, un parti de gauche qui croit un petit peu en ce moment. Et je n'ai pas été élue, mais presque, il en manquait peu. Je participe des groupes de mobilisation pour cette question de la mémoire au Brésil depuis la dictature militaire, enfin tout ce qui s'est passé après. Les tortures, la répression, etc. Ça faisait partie de mon agenda, de la candidature aussi, de renforcer cette question-là pour qu'on travaille mieux la mémoire de cette période.
Tatiana, vous avez voulu me rencontrer ici, dans le centre de Rio. Pourquoi ?
Parce qu'ici, ça a été les bâtiments du département d'ordre politique et social, qui était le DOPS, où plusieurs personnes ont été torturées, ont été emprisonnés et torturés ici. Et maintenant, ça appartient à la police de Rio. Et en fait, il y a une dispute entre la police et les mouvements sociaux pour que ça devienne un musée de cette période-là. En fait, nous, des mouvements de mémoire, justice et vérité, on veut que cet espace devienne un musée qui nous rappelle de la démocratie, enfin de lutte pour la démocratie des années 60, 70, etc. Et en fait, ça appartient à la police, donc il y a une dispute là-dessus parce que la police ne veut pas que ça devienne un musée de la dictature, bien sûr. Et ils veulent faire un musée de la police. En fait, il y a un panneau là qui dit « Musée de la police ». parce qu'ils veulent le faire, mais en fait, c'est en restauration, le bâtiment est fermé, et il va être restauré, mais il n'a pas d'argent, etc. Donc, il a aussi ces problèmes-là.
C'est un endroit symbolique et qui éveille en vous une certaine douleur, j'imagine, hein, quand vous passez devant. Enfin, c'est...
Oui, très profonde, parce qu'en fait, ici, il y a les archives de ces départements d'ordre politique et social. Et dans ces archives, on trouve toutes les informations qu'ils avaient, la police à cette époque, sur les militants de gauche qu'ils ont tués, qu'ils ont torturés, etc., dont mon père. Donc c'est là aussi que j'ai découvert des informations qu'ils avaient sur mon père, et des informations un peu choquantes comme ça, parce qu'il avait des fiches sur mon père comme s'il avait été un terroriste. Mais en fait, il était un militant de gauche, pas du tout un terroriste. Et on trouve des photos, des choses très troublantes.
Vous avez eu accès à ces archives?
Oui, et on voit des photos, par exemple, parce qu'à l'époque, on faisait comme ça. La police, enfin, tout l'appareil de répression, ils avaient une pratique de créer des versions fausses de ces histoires. Donc, ils enregistraient des versions fausses, ils créaient ce qu'ils appelaient des petits théâtres. Donc, ils emprisonnaient la personne, ils torturaient jusqu'à la mort. Et après, ils amenaient les corps de la personne déjà morte à l'endroit où ils racontaient que c'était la version officielle des changes de tir. Bon, la version officielle est que ces gens-là, ils ont été morts parce qu'ils ont résisté à la prison. Donc, il y avait des échanges de balles entre la personne dite terroriste et la police, etc. Ça, c'était la version officielle. Mais en fait, ils amenaient le corps jusque là-bas. C'était à une place près d'ici. Et là, ils simulaient un échange de tirs. Mais en fait, quand on voit les photos, on voit que les marques de tirs qu'il y a sur le corps du cadavre, ce n'est pas des marques de tir, des échanges de balles, c'est des marques de tir de...
Tir à bout portant.
Oui. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait une analyse par un médecin légiste qui a montré ça et j'ai gagné un procès contre l'État en montrant qu'il avait été assassiné, torturé jusqu'à la mort, etc. Et pas parce qu'il avait résisté à la prison.
Vous parlez de votre père, là.
Oui. Et c'est dans ces archives que j'ai découvert les preuves qui m'ont permis de faire ça. Parce que là, il y avait les photos. Il y avait même les balles qu'ils ont enlevées de son corps.
Cette partie, cette frange de la population brésilienne, elle est en train de renaître aujourd'hui, de se manifester à nouveau?
Oui, je pense que si. Que maintenant, les généraux, par exemple, des gens de l'armée qui ressortent avec des discours antidémocratiques et qui soutiennent Bolsonaro, par exemple, c'est des gens de cette période-là qui ont été un peu cachés pendant ces temps, pendant la redémocratisation du pays. Mais puisqu'ils n'ont pas été punis, ils n'ont même pas été... investigués, enfin ils n'ont même pas été responsabilisés par la crime, donc ils peuvent ressortir comme si rien n'était.
Pourtant la voix officielle du général Vilas Boas, qui est le plus haut gradé de l'armée brésilienne, elle rejette cette accusation qu'on donne, qui est faite d'une possibilité de retour de la dictature et des militaires au pouvoir. Il l'a clairement dit, ça.
Oui, tout à fait. Mais les faits seulement qu'on les dise, qu'on puisse les dire comme si rien n'était, c'est déjà assez grave. Mmh. Et même, on a eu la semaine dernière un fait très préoccupant, parce qu'un ministre du supérieur tribunal fédéral a dit, Dias Toffoli, il a dit qu'en fait, il faut repenser les noms des coups d'État pour ce qui s'est passé en 64, qu'il fallait peut-être appeler mouvement de 60 ou quelque chose comme ça, de plus souple, comme si on pouvait questionner le fait que ça a été un coup d'État, vraiment, militaire. Donc je pense que ça, il y a un certain révisionnisme qui n'est pas officiel, donc ce n'est pas dans la voie de Vilas Boas, mais que ça passe quand même par plusieurs institutions, et pas seulement l'armée, même les supérieurs tribunaux de justice du Brésil. Donc ça, c'est hyper grave. Amanhã vai ser outro dia.
Les militaires, justement, qu'en pensent-ils? Doit-on parler de coup d'État ou de mouvement civilo-militaire de 1964? À ce sujet, l'un des conseillers pour l'éducation de Jair Bolsonaro estime qu'une nouvelle version des manuels d'histoire doit être éditée. Difficile de tendre un micro à un militaire, d'obtenir son point de vue. C'est par le biais des réseaux sociaux que certains acceptent de répondre. Ils y sont très actifs. Le général de brigade Ridaoto nous donne son point de vue sur l'arrivée des forces armées au pouvoir au milieu des années 60.
Naquela época, nós tivemos um surgimento aqui no país de diversos movimentos de guerrilha urbana e rural.
À cette époque, nous avions de nombreux foyers de guérilla et des actes terroristes ont touché de nombreux Brésiliens et des étrangers dans le pays. Le combat mené contre ces mouvements explique pourquoi les militaires ont dû rester plus longtemps au pouvoir que ce qui était initialement prévu. Et 20 ans après, cas unique au monde, les militaires ont transmis volontairement le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, il n'y a plus de guérilla. Mais il existe un désordre provoqué par des groupes criminels organisés. Notre classe politique est également discréditée à cause de la corruption. Une corruption qui a touché de nombreux hommes politiques et leurs partis. C'est ce discrédit qui fait qu'aujourd'hui nous sommes sur le chemin inverse de l'époque où les militaires ont rendu le pouvoir aux civils.
Voilà donc le récit de l'histoire brésilienne remise en question, parole contre parole. D'après les militaires avec qui nous avons échangé, cette dictature n'en était pas une. En 1964, la nation brésilienne a eu besoin d'eux et aujourd'hui, l'histoire se répète. Fernando Montenegro est un ancien commandant des forces spéciales brésiliennes. Il assure que cette implication politique n'a pas d'autre but que de défendre la Constitution dans un pays en perte de repères.
As forças armadas brasileiras, elas são uma reserva moral do Brasil.
Les forces armées sont une réserve morale du Brésil. L'indice de corruption et de mauvais comportement y sont extrêmement bas si on les compare à d'autres domaines. C'est pour cette raison que la population estime qu'ils doivent participer à la gestion du pays. Parce qu'ils sont crédibles, pas parce qu'ils sont militaires, mais parce qu'ils représentent un segment de société qui dispose de valeurs éthiques et morales très consolidées. C'est la perception de la population.
Como vai se explicar, vendo o céu clarear?
Pourtant, de nombreux historiens évoquent des pratiques de corruption durant la dictature. Le géant médiatique Globo, celui du BTP, Odebrecht, sont cités. Un document des renseignements américains affirme qu'une partie du pouvoir militaire était effectivement corrompue. Malgré tout, contrairement à celle de la police militaire, l'image des forces armées semble plutôt rassurer le peuple brésilien. Le sociologue Ignacio Cano nous explique pourquoi le mot dictature n'a pas ici le même écho qu'ailleurs.
Premièrement parce que le Brésil n'a pas une culture de la démocratie très forte. L'impeachment de Dilma Rousseff en est la preuve. Ça a été un scandale. Si le centre droit avait eu cette culture démocratique, ils auraient attendu que le PT s'épuise pour être élu à la prochaine élection. Mais non. Donc vous avez peu d'attachement à la démocratie au Brésil. Ensuite, la dictature a été, entre guillemets, plus molle que dans d'autres parties d'Amérique latine. Au Chili, la dictature a tué 3000 personnes. En Argentine, entre 20 000 et 30 000. Au Brésil, 300. Beaucoup de gens ont été torturés, mais il y a eu 300 morts. Si vous allez en Argentine et que vous discutez avec les classes moyennes, tout le monde connaît quelqu'un qui a disparu ou qui est mort. Ici, ce sont de petits groupes et plus politisés qui ont connu une victime de la dictature. Donc quand vous dites aux gens que la dictature a été très violente, ils répondent « oui, mais bon ». Aujourd'hui, vous avez 60 000 assassinats par an. En comparaison avec les 300 morts de la dictature, ça ne représente pas grand-chose pour les gens, malheureusement.
On parle d'un retour à un régime militaire, à une dictature en ce moment. Un régime militaire ressemblerait à quoi aujourd'hui? Les forces armées dans la rue ou simplement plus de pouvoir entre les mains des généraux?
Nous étudions de près le processus de militarisation de la sécurité publique. C'est une tendance que l'on retrouve depuis quelque temps, et pas seulement au Brésil. On voit ça au Mexique, au Salvador, au Honduras. C'est un processus régional. Les gouvernements font appel à l'armée pour résoudre des crises intérieures. La militarisation du XXIe siècle n'a pas grand-chose à voir avec la militarisation du XXe siècle. Au XXe siècle, les militaires prenaient le pouvoir et sortaient les tanks dans la rue. Aujourd'hui, ce sont les gouvernements civils qui les appellent. Ce ne sont pas les militaires qui sortent dans les rues. Les militaires peuvent obtenir le pouvoir par le vote. Pourquoi instaureraient-ils un régime militaire ?
Donc ça ressemblerait à quoi ?
Un modèle profondément autoritaire qui renforcera les responsabilités des militaires et qui va se durcir et provoquer de la violence. Et je pense, dans ce cas précis, ils ont un vrai fantasme fasciste, dans le sens où ils veulent domestiquer la lutte des classes, éviter ce conflit entre classes, imposer l'ordre et en finir avec tout ça. On parle d'un contrôle autoritaire pour faire disparaître les conflits sociaux. Plus d'activisme. Les syndicats seront muselés. C'est le rêve de ce candidat, et un peu celui des militaires, qui considèrent le pays comme une seule et même entité. Ils ne font pas confiance aux partis politiques. D'après eux, ils divisent le pays et eux, ils l'unissent. Et c'est le discours de Bolsonaro aujourd'hui.
S'il est élu, qui dirigera le pays ? Bolsonaro lui-même ou les généraux qui l'entourent ? Si l'on se fie aux enquêtes d'opinion, peu importe, le Brésil semble déterminé à afficher de nouveau un visage plus austère.
C'était Brésil, l'ordre au service des inégalités, un reportage d'Olivier Poujade réalisé par Brice Garcia.
En reportage, le magazine de la rédaction. Catherine Pétillon.
Et nous sommes toujours en studio avec l'historien Armen Enders, professeur à l'Université Paris 8, et Alfredo Valadao, professeur à Sciences Po. Armen Enders, on comprend bien en écoutant ce reportage à la fois les racines très anciennes de la situation qui s'est exacerbée là, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais aussi comment sont réactivés et même réactualisés des thèmes et une rhétorique qui ont été ceux de la dictature militaire. Alors, selon vous, quand et comment ça a commencé ?
Alors, je pense qu'effectivement, ces dernières années, il y a un problème de récit de ce que doit être le Brésil. Alors, il y a eu la proposition, on l'entend un petit peu au début du reportage, qui était ce qu'essayait de faire passer les gouvernements Lula, et jusqu'à la crise, c'était l'apogée sous le gouvernement de Dilma Rousseff. C'est on transforme en douceur le pays. Vers 2012, on disait le Brésil est désormais un pays où les classes moyennes sont majoritaires. Hein. Et donc, c'est une transformation de la société. On est en train de transcender justement ce dualisme, cette inégalité entre les maîtres, les esclaves, les pauvres, les riches, en transformant la société avec donc des mesures aussi symboliques de compensation, enfin les quotas raciaux, la politique de discrimination positive qui a été menée à ce moment-là. Alors ça, c'était un récit qui faisait l'unanimité au temps de la prospérité, enfin quand il y avait, et puis tout d'un coup qui a volé en éclats. Alors sur la base des scandales et surtout de la crise économique, et puis au fond parce que ça touchait effectivement des choses. Finalement, ce récit, il convenait pas à tout le monde.
Hein. Alfredo Valadao, pour vous, il y a effectivement une sorte de désaccord ou de combat sur ce récit de l'histoire brésilienne aujourd'hui ?
Je ne suis pas sûr. Ce que je crois, c'est que pour finir, le gouvernement Lula a essayé de se mettre en place avec une recette qui, à mon avis, ressemblait à toutes les recettes précédentes. C'est-à-dire qu'en gros, rester au pouvoir le plus longtemps possible en distribuant un argent qu'on n'avait pas, des fonds qu'on n'avait pas, hein, et au même temps en faisant un certain nombre de ouvertures sociales, distributions sociales, etc. Il ne faut pas oublier que le premier scandale de corruption qui a eu lieu sous l'ère Lula était une année et demie après son arrivée au pouvoir, le fameux Mensalão, qui était ça. Et donc, cette économie qui a fonctionné pendant 8 ans, en gros, elle fonctionnait sur un immense déficit du budget de l'État.
Mais est-ce que c'est ça aussi qui permet quand même à Bolsonaro de reprendre à son compte, ou du moins d'utiliser un récit de la dictature aujourd'hui ?
Non, ce qui se passe, non. La dictature a été épouvantable pour le Brésil. Et je pense que le discours de haine de Bolsonaro est terrifiant et catastrophique pour le Brésil aujourd'hui. Alors, il peut prendre le discours de la dictature, mais les gens, et comme l'a dit votre correspondant, c'est pour ses convaincus. La plupart des gens qui ont voté Bolsonaro ne savent même pas ce qu'il veut ni rien. La plupart sont votés contre le PT. Contre cette désaffection qu'a créé les politiques du PT. Si vous regardez d'où sont partis les votes de Bolsonaro, la plupart, c'est la petite classe moyenne qui était sortie un peu de la misère avec les politiques distributives de Lula et qui sont retombées dans la misère par la crise qui a été créée par son successeur Dilma Rousseff.
Et c'est eux que le PT a perdu.
C'est eux, et le PT a perdu 10 millions de voix dans cette catégorie-là. Le PT a perdu dans toutes les villes moyennes, qui sont environ trois quarts des circonscriptions brésiliennes, là-dessus. Et donc, les plus pauvres ont voté PT, une partie de la haute bourgeoisie intellectuelle a voté PT, ensuite les plus riches ont voté Bolsonaro, et cette petite classe moyenne vote Bolsonaro. C'est ça qui s'est passé. Et ça vient de la crise économique, la violence, il ne faut pas oublier quand même que, depuis la constitution de 1988, aucun gouvernement ne s'est occupé sérieusement de la violence. 64 000 homicides par an, 500 000 assassinats depuis 10 ans.
Mais ça veut dire quand même que Armin Lenders, même pour cette classe sociale, y compris ceux qui sont parfois visés par les discours de Bolsonaro, finalement, la déception et le rejet du PT est plus fort que ce discours de haine que porte Bolsonaro, et qui a une forme, ce qu'on l'entend dans le reportage aussi, finalement, d'acceptabilité de ce discours-là.
Alors, je voudrais revenir sur une déclaration au début du reportage d'un témoin qui dit « on veut virer le PT du pouvoir ». Mais c'est fait, ça fait 2 ans que le PT n'est plus au pouvoir. Alors, si il s'imagine que le PT est encore au pouvoir, c'est vous dire l'énormité du fantasme et de la représentation. Alors, maintenant, savoir à quoi ça correspond et pourquoi il y a un tel rejet viscéral et qui est quand même complètement en désaccord avec la réalité, une appréciation nuancée des bilans, là, c'est autre chose. Et je pense qu'il faut revenir effectivement à cette... alors, un sentiment de déclassement de cette classe moyenne. Et puis, ce qu'ont en commun finalement l'électorat initial de Bolsonaro, c'est-à-dire, et toujours majoritaire, c'est quand même le candidat des plus riches et des plus diplômés, avant tout. Et ce qu'ils ont en commun avec cette petite classe moyenne, c'est quand même une hostilité aux pauvres, qui sont assimilés à l'insécurité, et finalement, donc, qui se retrouve dans ce discours d'exclusion, même si on dit que c'est contre la corruption, mais au fond, c'est quand même ça.
Oui, mais alors quand on entend, Alfredo Valadao, que 60% des intentions de vote se tournent vers Bolsonaro, ça veut dire que quand même, il y a y compris des pauvres qui vont voter pour lui.
Il y a beaucoup de pauvres. Par exemple, même dans le Nord-Est, qui est le bastion du PT, où il y a la population la plus pauvre, Bolsonaro n'a pas fait des scores totalement maigres, entre 30%. Etc. Ensuite, il y a un autre problème, c'est les périphéries, les banlieues. Les banlieues, c'était la base du Parti des travailleurs pendant très longtemps, qui attendait des redistributions. Mais ces banlieues-là ont changé. L'Institut de recherche du Parti des travailleurs a fait une enquête il y a 3 semaines en montrant que ces gens de la périphérie avaient changé d'idéologie. Qu'ils en avaient marre de toute attente de l'État, qu'ils voulaient la méritocratie, aller en avant. Ça correspond un peu au discours des églises évangélistes sur la prospérité, que c'est bien d'être entrepreneur, etc., etc. Donc c'est cette partie-là qui a été déçue par le PT et qui a voté Bolsonaro, dans une certaine manière. Plus tous ceux qui, effectivement, dans les classes plus riches, etc., votent Bolsonaro. Mais si 60% de la population, ou 55%, on ne sait pas comment ça, sont les riches, le Brésil est le pays le plus riche du monde.
Je me tourne un instant vers à Rio, vers Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial, vous vouliez intervenir.
Oui, il faut voir aussi une chose qui est importante ici, parce que vous parliez des pauvres qui subitement voteraient pour l'extrême droite. Il faut avoir en vue que au Brésil, on regarde aussi ce qui se passe au Venezuela. Et je pense que les images qui ont tourné en boucle de Maduro, des réfugiés qui ont quitté le Venezuela, montrent que si on gouverne à gauche, on peut aboutir à ce genre de situation avec des réfugiés, avec une crise économique, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut pas perdre de vue cet aspect des choses. Ce qui s'est passé au Venezuela a eu une sorte d'influence directe sur l'image de la gauche qu'a pu véhiculer Bolsonaro au Brésil.
Armin Enders. Je crois aussi plus largement, et ça c'est un phénomène qui est pas seulement brésilien, hein, mais effectivement il y a un rejet, enfin dans cette adhésion à Bolsonaro, il y a un rejet, il y a un aspect antifiscal, hein, on veut moins payer d'impôts, on veut moins d'État, moins de régulation, moins de préservation de l'environnement, enfin tout ce qui est limitation des libertés, des pratiques. Et ça, c'est très effrayant. Et finalement, c'est pas tant le PT et ses pratiques, mais au fond que ce qu'il représente, des régulations, une protection sociale ou fin d'aspect qui est rejeté très très largement. Là, il y a visiblement un basculement quand même d'époque et de sensibilité.
Mais est-ce que le programme de Bolsonaro est clair sur ces points?
Non, il est à part faire un geste mimé. Un revolver et de dire qu'il va nettoyer le Brésil, on ne sait pas exactement avec quelle violence, il n'y a aucun contenu. Puis il dit tout et son contraire, et puis voilà, c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison. Hein. Enfin, non, c'est le grand vide, là, on ne sait pas.
Nathanaël Charbonnier évoquait le Venezuela. C'est vrai qu'il y a eu dans cette campagne, finalement, une communication très agressive de part et d'autre et deux épouvantails un petit peu agités. D'un côté, vous le disiez, Alfredo Valadao, l'épouvantail du Venezuela, ou en tout cas l'image qui en est véhiculée, et de l'autre côté, le péril rouge avec l'idée que le PT, ce serait des dangereux communistes qui viendraient prendre le pouvoir.
Oui, c'est évident que petit à petit, le Brésil s'est polarisé autour de ces deux fantasmes. Je pense que ni l'un ni l'autre est vrai, mais ils sont polarisés autour de ces deux fantasmes. Donc les gens ont voté plus par peur de l'un, peur de l'autre, ce qui fait que aujourd'hui on se retrouve avec une situation où les gens n'ont pas voté pour, mais contre quelqu'un. Et c'est vrai que l'exemple du Venezuela a pu faire que les gens ont dit « mais on ne veut pas terminer comme ça ». D'autant plus que la peur du Parti des travailleurs n'est pas simplement de l'enlever du pouvoir. Les gens avaient peur qu'un PT revanchiste arrive au pouvoir et fasse encore pire qu'en avait fait Dilma pendant son gouvernement. Donc, mais moi, ce que je crois, c'est que aussi bien le Parti des travailleurs que les partis de droite brésiliens ont quelque chose en commun, qui est historiquement commun, qui est de maintenir un système où tout fonctionne. C'est un système profondément anticapitaliste, rentiste, clientéliste, où on donne beaucoup d'argent aux industriels. Il n'y a pas de concurrence au Brésil. Les gens vivent de subsides de l'État, de protectionnisme, hein, les industriels. Et de temps en temps, on donne quelque chose aux pauvres pour tenir un peu les choses tranquilles. Mais depuis que les colonies, on n'a pas changé de système. Or, aujourd'hui, ce système n'arrive plus à se reproduire parce qu'il n'y a plus d'argent. Tout simplement, on ne peut plus payer tout le monde. Et donc, on arrive à cette situation où on se demande quel va être l'avenir. Comment créer un Brésil nouveau qui sorte de ce vieux truc colonial qu'on a.
Parce que vous parlez tous les deux là de mise en récit, de fantasme. Ça veut dire que pour vous, plus qu'une réelle menace sur la démocratie, ce discours autour de la dictature est plus une sorte d'habillage aux difficultés économiques, à la violence que connaissent aujourd'hui les Brésiliens. Il y a une menace, Armel Hendersz.
Non, il y a deux choses. Il y a Bolsonaro lui-même. Là, c'est un authentique. C'est quelqu'un de vraiment de l'extrême droite militaire, avec l'expérience de la dictature militaire, vu comme une guerre contre-insurrectionnelle. Hein. C'est-à-dire que le coup d'État militaire et civil de 1964, hein, la révolution, comme ils disent, c'était fait pour débarrasser le Brésil de ses ennemis. Et Bolsonaro pense que la dictature brésilienne n'a pas été assez loin. Son modèle, c'est la dictature argentine qui a tué 30 000 personnes. Bon, alors il y a lui, et puis il y a d'autres. Il y a toute une nébuleuse d'extrême droite qui reprend vie et couleur avec ce mouvement-là. Après, dans la population, dans ceux qui votent Bolsonaro, je crois que c'est pas seulement un vote anti, c'est pas seulement un vote de protestation. Il y a une grande part de vote de protestation, c'est sûr, mais il y a aussi une forme d'adhésion, hein, à des idées, alors peut-être pas le modèle, ce que veut l'extrême droite, mais quand même de l'unanimisme, hein, de pas admettre le débat démocratique et qui est quand même très violent, enfin qui souhaite, au fond, l'idée un bon bandit est un bandit mort, ça convient, enfin je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens votent. Alors ils vont dire c'est contre la corruption, parce que c'est plus difficile à porter de dire qu'on veut éliminer les facteurs de désordre, mais voilà.
Cette nébuleuse d'extrême droite, elle a aussi pris vie ou repris vie, comme vous dites, dans un contexte qui est celui d'une utilisation massive des réseaux sociaux dans la campagne. Pour ne citer que WhatsApp, c'est 120 millions d'usagers au Brésil. Et là, ça a été aussi une nouveauté, un changement dans les espaces politiques de discussion qui existent partout dans le monde, mais qui ici ont permis à quelqu'un qui était finalement sans parti et sans grand réseau d'émerger quand même de façon extrêmement rapide, Alfredo Valadao.
Oui, ça c'est un phénomène dans le monde entier. C'est-à-dire que comme Bolsonaro avait un tout petit parti, il n'avait pas l'argent public pour faire des campagnes à la télévision. Donc il est passé par là. La première utilisation des réseaux, d'ailleurs, a été faite par le Parti des Travailleurs lui-même en 2014, au moment de l'élection de Dilma, où ils ont utilisé les réseaux pour démolir les candidatures de l'écologiste Marina Silva, par exemple. C'était très clair. Donc aujourd'hui, tous les côtés, que ce soit de droite, de gauche, du centre, commencent à se rendre compte qu'on peut utiliser les réseaux de cette façon-là. Alors, toute la question, mais ça c'est une question beaucoup plus large, dans le monde entier, c'est comment est-ce qu'on peut garder l'autorité des partis politiques face à un tel phénomène ? En fait, ça enlève toute légitimité, toute autorité à une parole plus organisée des partis politiques.
Est-ce que pour vous, Armel Hendersz, ça a aussi permis quand même l'émergence et la structuration de ce récit,
De ce nouveau récit, de cette émergence de l'extrême droite? Oui, alors il y a une cristallisation. Alors je pense quand même, dans le cas de Bolsonaro, où il y a quand même quelque chose de précis, enfin, il y a eu visiblement un financement de cette campagne de fake news par des entreprises, grandes ou petites, de ça on parle. Donc c'est une forme de financement illégal, hein, donc de corruption, hein. Il y a d'ailleurs, Bolsonaro lui-même appartenait au parti qui compte le plus de mises en examen pour les affaires de corruption, bien plus que le PT. Hein, donc,
parce que c'est ça, Bolsonaro, 27 ans député, mais quand même peut s'apparenter à l'homme du renouveau.
Surtout, c'est le genre d'homme politique typique que en principe tout le monde déteste, hein, de congressistes qui se nourrit sur la bête et qui se vend au plus offrant, qui n'a jamais eu la moindre proposition, enfin il y a aucune loi qui reste attachée à son, il n'a jamais eu la moindre proposition sur la sécurité notamment, hein, s'est jamais exprimé là-dessus, et c'est vraiment le contre-modèle vraiment en principe de tout ce que les Brésiliens devraient détester.
Alors, Nathanaël Charbonnier, vu du Brésil, comment en fait s'annonce ce week-end de scrutin, au vu de tout ce qu'on vient d'entendre? Est-ce qu'on peut imaginer des formes de résistance, d'émeutes? Comment ça peut se passer, de ce que vous sentez là, vous, à Rio, aujourd'hui?
C'est difficile à dire, évidemment, parce qu'on est encore à 48 heures, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, je pense que si Jair Bolsonaro est élu, dans un premier temps, les gens de gauche, ils vont quand même un peu raser les murs, parce qu'il y a une telle envie, et on l'a dit dans cette émission, de revanche, une envie de prendre les rênes du pouvoir, une telle haine du Parti des Travailleurs, de Lula, que cela va être vraiment difficile pour les gens de gauche. Mais ça, à la rigueur, c'est le combat politique, vous allez me dire. Ce qui est encore plus fort ici, c'est que Bolsonaro, et ça a été un petit peu dit aussi pendant cette émission, eh bien, à la différence, c'est qu'il chauffe son public, entre guillemets. Quand vous tenez des propos aussi violents que l'erreur de la dictature, c'est d'avoir torturé sans tuer, eh bien, c'est d'une violence inouïe. Et d'ailleurs, dans les rassemblements, il y a beaucoup de militants qui prennent la pose comme s'ils avaient un fusil dans la main, un peu comme des enfants qui jouent à la guerre. Alors, je vous laisse imaginer, quand ces personnes-là vont avoir l'impression d'avoir tous les pouvoirs, on peut vraiment craindre qu'il y ait des dérapages ou des débordements. Et puis, si on prend dans l'autre sens, si jamais c'est Haddad qui l'emporte, l'extrême droite ne reconnaîtra pas sa défaite, en tout cas pas dans un premier temps, c'est quasiment certain. D'ailleurs, Bolsonaro l'a dit dans une vidéo il y a encore quelques heures, il l'avait déjà dit même avant, « si je ne gagne pas, c'est qu'il y aura eu fraude ». Et là encore, c'est une façon de chauffer les esprits qui fait que, à l'arrivée, dimanche soir, le résultat sera connu aux alentours de 19h, 19h30, parce que ici, ce sont un vote électronique, donc ça va aller très très vite, entre le 13, qui est le numéro d'Haddad, qu'il faut taper sur la machine, et le 17, qui est le numéro de Bolsonaro, qu'il faut aussi taper sur la machine. On devrait connaître les résultats, donc, en début de soirée, ici, à Rio, ce qui fait du 23h, 23h30 en France, et je vous promets que, sur Copacabana, Gabana, où normalement les partisans de Bolsonaro se rassemblent, ça va être soit la fête, soit la guerre.
Alors, Bolsonaro annonce quand même aussi un certain nombre de mesures. Et il disait qu'il voulait assouplir le contrôle des armes à feu, pour ne citer qu'un exemple. Très concrètement, quelle menace pour la démocratie pourrait, selon vous, Armel Enders, représenter l'élection de Bolsonaro? Qu'est-ce qu'il pourrait changer à court terme?
Alors, à court terme, je pense, comme votre correspondant, que c'est plutôt dans les... il va y avoir des formes de répression officielle, et puis beaucoup de règlements de compte par des paramilitaires, des bavures policières, des assassinats transformés en bavures. Enfin, ça, c'est... Alors, ça existe déjà au Brésil, mais ça va prendre une ampleur absolument considérable. Une impunité pour, pour un certain nombre de personnes à la gâchette facile.
Dans l'hypothèse d'une élection de Bolsonaro, quels pourraient être, Alfredo Valadao, les garde-fous?
Moi, je serais un peu plus optimiste, dans la mesure où je pense que le Brésil vit depuis 1988 la plus longue période démocratique de l'histoire républicaine du pays. Et je pense que les institutions brésiliennes sont plutôt assez fortes. La justice se maintient assez forte. Il y a énormément d'intérêts très organisés. La société civile est très forte. Les réseaux sociaux permettent aux gens de se mobiliser en dehors des partis en deux ans. Et une chose très importante, c'est qu'un président de la République ne peut pas tout faire. Pour pouvoir faire des choses, il va falloir qu'il passe par le Congrès. Et le Congrès, il a son parti n'a que 11% des sièges, comme le Parti des Travailleurs aussi 11% des sièges. Il va falloir négocier chaque chose.
Oui, peut-être dire ça, qu'il y a eu les élections...
Les élections ont eu un dégagisme général. Tous les grands leaders, enfin pas tous, mais la plupart des grands leaders des partis traditionnels ont été virés, ça c'est très clairement. Dilma Rousseff, qui était la présidente, elle n'a pas réussi à se faire élire comme sénatrice de son propre état d'origine. Donc il y a eu une sorte de vague de dégagisme, ce qui fait que les choses sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Et le problème, c'est savoir est-ce que Bolsonaro arrivera même à gouverner, à faire quelque chose.
Mais précisément, Armel Enders, est-ce que cet éclatement n'est pas aussi un affaiblissement potentiel, et notamment des garde-fous et de la manière dont les institutions pourraient se positionner?
Oui, moi je le crois. En fait, il y a un vieux système politique brésilien qui reste tout à fait en place, qui est ce qu'on appelle le physiologisme là-bas, qui est en fait du clientélisme. Et cet émiettement, tous ces partis qui sont représentés au Congrès, pour la plupart, c'est quand même des partis idéologiquement et éthiquement extrêmement faibles et douteux, qui sont prêts à se rallier à, de toute façon, à la ligne Bolsonaro, ne serait-ce que parce qu'en ce moment, elle gagne. Donc, ces partis et ces hommes politiques qui vont du côté de la victoire. Et en plus, ils partagent ce courant plus que conservateur. Qui est autour de Bolsonaro.
On entendait dans le reportage d'Olivier Poujade un certain nombre de généraux interviewés. Comment vous voyez la manière dont pourrait se positionner l'armée dans ce résultat et dans ce scrutin ?
Bon, alors l'armée est quand même intervenue, enfin est de retour quand même un peu aux affaires politiques en arrière-plan, beaucoup sous le gouvernement Temer. Hein, c'est ce qui a été dit sur le fait qu'on confie le maintien de l'ordre de plus en plus à l'armée et non pas à la police. Elle est intervenue au moment de la condamnation de Lula, en disant que si jamais, en gros, Lula n'était pas envoyé en prison, les militaires feraient le travail. Et il y a, en tout cas, la troupe et puis les officiers subalternes sont très bolsonarisés, eux. Le candidat à vice-présidence est un général à la retraite, certes, mais enfin, qui a quand même... il faut espérer qu'il y a quelques généraux un peu raisonnables qui ne laisseront pas des aventures aller trop loin.
En un mot pour conclure, Alfredo Valadao, vous partagez cette optimisme sur l'attitude de l'armée ?
Oui, je pense que l'armée n'a aucune envie de prendre les rênes de ce pays comme ça, avec une telle difficulté. Autre chose aussi, c'est que c'est vrai que l'armée a été appelée à intervenir contre le trafic de drogue, mais les militaires n'aiment pas du tout ça, parce qu'ils ont peur que la corruption ne gagne l'armée. Et pour l'instant, ils essayent d'éviter que la politique ne rentre dans l'armée, parce que ça détruit la discipline. Et pour eux, c'est absolument fondamental que cela se fasse. Donc il y a deux conditions pour que l'armée intervienne vraiment. C'est si on essaye de casser la Constitution, ou bien si ça devient une sorte de violence politique généralisée. Et là, ils interviendront. Mais sinon, je pense que l'armée restera tranquille pendant un bon bout de temps pour l'instant. Elle regardera ce qui va se passer.
Merci, on suivra avec attention le scrutin ce dimanche. Merci Armel Enders, je rappelle que vous êtes l'auteur entre autres d'une histoire du Brésil. Merci Alfredo Valadao, professeur à Sciences Po. Merci aussi à Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial de Radio France à Rio avec les moyens techniques de Jean-René Giannichini. On vous retrouvera dans nos journaux ce week-end pour suivre donc les résultats de ce scrutin. Brésil, l'ordre au service des inégalités. Le grand reportage de cette semaine était signé Olivier Poujade avec Romain Lucquens, réalisation Brice Garcia, avec à la technique aujourd'hui Audrey Guélil. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.